Vous écoutez en balado-diffusion le premier volet de la série Dialogue. Premier épisode, conférence d'ouverture du professeur Gérard Bouchard, illustration et défense de l'interculturalisme.
Il est l'un des penseurs les plus influents et prolifiques au Canada. Il est l'auteur de nombreux livres. Je ferai référence à deux ouvrages ici. « Genèse des nations » et « Culture du Nouveau Monde », essai d'histoire comparée chez Boréal, et très récemment, « L'interculturalisme, un point de vue québécois ». Je vous invite à accueillir avec moi Gérard Bouchard.
Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Merci Alain de m'avoir invité à inaugurer cette série et qui nous donne l'occasion de réfléchir ensemble sur des thèmes qui sont plus d'actualité que jamais. Ce que je propose de faire dans cet exposé, je ne vais pas résumer le contenu de mon dernier livre sur l'interculturalisme, mais je vais revenir sur certaines propositions que j'ai énoncées et auxquelles j'aimerais ajouter des éléments de réflexion et aussi peut-être me donner l'occasion de congédier quelques malentendus qui sont nés à ce propos. Je rappellerai d'abord que, pour l'essentiel, ce que nous appelons aujourd'hui l'interculturalisme québécois, c'est le fruit d'une histoire longue qui remonte aux années 1960-1970 au Québec. Et on pourrait dire que, dès cette époque, les grandes assises du modèle de ce qui est devenu l'interculturalisme ont déjà été formulées, ont déjà été mises en place. Et c'est à partir de là que toute la réflexion s'est déroulée. Donc, moi, je suis loin de tout inventer dans mon livre. Je suis parti d'une ossature qui était déjà très solide. Alors, ces assises, d'abord, il y avait l'idée de la recherche d'une voie mitoyenne entre la fragmentation et l'assimilation. C'était déjà très, très clair. La fragmentation, c'est-à-dire, c'était avant le multiculturalisme. Fragmentation, ça voulait dire des modèles qui ne garantissaient pas une intégration suffisante de notre société. Et notre société, là, on parle d'une petite nation qui est une minorité culturelle en Amérique, qui est une minorité politique au Canada, etc. Donc, il y a toujours un coefficient d'insécurité qui a accompagné l'imaginaire québécois. C'était deuxièmement la prise en compte de l'existence au Québec, ça c'est très important, la prise en compte de l'existence au Québec d'une majorité francophone et de minorités. Cette structure de perception, elle est vraiment fondatrice au Québec et on la voit tout le temps. Et aujourd'hui, pas besoin de vous le dire. Troisième élément, la quête d'équilibre entre des impératifs sociaux, juridiques, culturels, qui sont souvent en compétition, comme nous le savons, dans la vie des sociétés diversifiées. Elle était déjà là, cette idée-là. Une recherche d'équilibre. Donc, sous-entendu, un rejet des solutions radicales. Et puis, le respect de ce que, ici au Québec, on n'appelait pas encore le pluralisme, mais qui en était essentiellement le fondement, un souci du droit, un souci de l'éthique publique, renouvelé dans un contexte de diversification ethnoculturelle de notre société, dont les Québécois prenaient conscience à ce moment-là, à partir des années 60. Il y a une fameuse expression de Gérard Pelletier dans un article de Cité Libre à la fin des années 50 qui était intitulé « Feu l'unanimité ». Ça désignait bien la perception des Canadiens français qui avaient toujours défini la nation sur des prémices d'homogénéité, en ne souciant pas d'y intégrer d'autres Québécois qui étaient d'une culture différente. Alors, à partir des années 60, tout cela a éclaté. Et puis, évidemment, autre assise importante, la protection de la langue française. Alors, moi, je rappelle, à toute fin pratique, ce qui, pour moi, constitue les principaux éléments de l'interculturalisme, tel qu'on peut le penser aujourd'hui et tel que je les ai exposés dans mon livre, c'est d'abord, alors je vous en présente 7, mais très très rapidement, juste pour vous rafraîchir la mémoire, parce que je sais que vous avez tous lu mon livre, hein, pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, premièrement, le respect des droits, dans l'esprit de la démocratie et du pluralisme, d'où découlent 4 impératifs. L'insertion économique et sociale des citoyens, la lutte contre les inégalités et les rapports de domination qui tendent souvent à brimer les minorités et les immigrants, c'est-à-dire les éléments les plus faibles dans une société, le rejet de toute forme de discrimination et de racisme, et la nécessité d'assurer la participation de tous les citoyens à la vie civique et politique. Deuxième élément, la promotion du français comme langue officielle du Québec et comme langue aussi de la citoyenneté, mais aussi comme langue identitaire pour ceux qui veulent se l'approprier de cette façon. Troisième élément, la prise en compte de la nation québécoise dans toute sa diversité. Alors ça veut dire pour moi former d'une majorité francophone qui est largement issue de l'héritage canadien-français, à laquelle se sont ajoutés d'autres francophones en cours de route, et deuxièmement, de minorités ethnoculturelles, incluant bien sûr les anglo-québécois avec leur statut de minorité nationale, et à cela s'ajoute la volonté légitime de chacune de ses composantes, majoritaire ou minoritaire, d'assurer son avenir en termes d'identité, d'appartenance, mais dans une dynamique d'intégration. Alors justement, c'est le quatrième point, l'intégration, l'accent sur l'intégration, qui est en accord avec un contrat moral qui lie l'ensemble des Québécois et qui commande un principe de réciprocité dans l'harmonisation des différences culturelles. Cinquième élément, la promotion des interactions, des rapprochements, des échanges interculturels, comme moyen d'intégration, donc tout est lié, et aussi comme moyen de lutte contre les stéréotypes qui sont toujours la source d'exclusion et de discrimination. Sixièmement, le développement d'une culture commune comme rencontre de la diversité et comme bouillonnement de la diversité. Culture commune qui est faite principalement de valeurs, de mémoires partagées, nourrie des apports conjugués de la majorité et des minorités, dans le respect de chacune. La culture commune n'efface pas les cultures minoritaires, elle les conjugue plutôt dans quelque chose qui s'ajoute. Et septièmement, finalement, la promotion d'une identité, d'une appartenance, et de ce que je n'hésite pas du tout à appeler une culture nationale québécoise, qui est formée de trois trames enlacées, en mouvement constant, largement ouvertes aux apports externes, c'est-à-dire la culture majoritaire, les cultures minoritaires et la culture commune dont je viens de parler. Et encore une fois, j'insiste pour souligner le fait que tout cela est évidemment en mouvement. On ne va pas fixer ça, c'est toujours en mouvement et en train de se redéfinir. On pourrait dire que le pluralisme, c'est la toile de fond sur laquelle se déploie l'interculturalisme québécois. Alors, on sait que cette orientation a véritablement pris son envol au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en Occident, à la lumière de toutes les atrocités, de tous les dérapages dont l'Europe s'était rendue coupable depuis le début des colonialismes, donc depuis au moins le 19e siècle. Et la plupart des modèles de gestion de la diversité qui ont été mis de l'avant depuis un demi-siècle représentent autant de tentatives de mise en forme, d'application de cet idéal pluraliste, et c'est le cas de l'interculturalisme. L'interculturalisme est une manière de concrétiser cet idéal pluraliste parmi d'autres manières. Alors, c'est une orientation qui conduit évidemment à rejeter au Québec un autre modèle qui, parallèlement à l'interculturalisme, a fait son chemin avec des fortunes diverses, mais qui fait un certain retour aujourd'hui, à savoir ce qu'il est convenu d'appeler le modèle de la convergence culturelle. Et finalement, la vision que propose ce modèle, c'est à toute fin pratique l'assimilation, à long terme, des minorités culturelles et des immigrants. Ça veut dire qu'on attendrait des immigrants et des membres des minorités qu'ils renoncent à leur identité, à leur mémoire, à leurs traditions, à leurs coutumes, pour adopter progressivement celle de la majorité. Alors, moi, je rejette ce modèle, parce qu'il va dans le sens contraire du multiculturalisme, il va dans le sens contraire aux droits collectifs et aux droits individuels des citoyens qui désirent composer leur identité de la façon dont ils le souhaitent. C'est un droit qu'il faut reconnaître. Ce n'est pas un droit qui est illimité, parce qu'il doit tenir compte d'autres impératifs sociaux, notamment celui de l'interaction, de l'intégration, etc., du respect des valeurs fondamentales d'une société, on est bien d'accord là-dessus. Et les valeurs fondamentales d'une société, ce n'est pas seulement celles de la majorité, elles sont largement partagées par bien d'autres Québécois, des minorités, etc. Alors, je rappellerai au sujet, ce sera mon dernier mot, au sujet de ce modèle de la convergence culturelle, que le ministre Gérald Godin, qui en avait été l'initiateur et le parrain à la fin des années 1970, s'est dissocié de ce modèle à la fin des années 80, au nom du respect qui était dû à la diversité. Gérald Godin lui-même, on ne le dit pas assez souvent, mais il a rejeté ce modèle de la convergence culturelle. Et pourtant, Gérald Godin, on s'entend bien, hein? C'est un type à qui on peut faire confiance. Il doit être clairement établi que le respect de la diversité n'entraîne d'aucune façon la remise en question des valeurs fondamentales d'une société ou le renoncement à son identité et à sa mémoire. Ça peut entraîner des reformulations de l'identité et de la mémoire, mais dans la continuité et non pas dans la rupture ou dans l'effacement. Et à l'inverse, le développement d'une culture commune ne force pas les minorités à renoncer à leur identité. La culture commune se nourrit des cultures constitutives d'une société. Elle ne les supprime pas. Tout en ménageant d'importantes ouvertures sur l'extérieur, dans un contexte de mondialisation, tout en tenant compte des influents flux culturels à l'échelle continentale ou internationale. Mon essai sur l'interculturalisme s'inscrit dans le cadre de l'État-nation. Et je dois un mot d'explication à ce sujet-là, parce que mon livre a été l'objet de critiques, parce qu'il s'inscrit dans le cadre de l'État-nation. Alors, je voudrais expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Il est certain que l'interculturalisme peut et doit être pensé également à l'échelle transnationale. Et c'est ce que font en Europe, dans le cadre de divers projets, des chercheurs du Conseil de l'Europe, des chercheurs de la Commission européenne, qui essaient de penser l'interculturalisme sous le radar des États-nations. Pour toutes sortes de raisons, mais enfin, c'est une entreprise qui me paraît très riche, promise à beaucoup d'avenir. Et la mondialisation, c'est bien, de diverses façons, invite à cela. Mais pour les raisons que je vais vous dire, pour moi, l'État-nation demeure un cadre légitime et incontournable de pensée et d'action, qui n'exclut pas l'autre, qui se fait en combinaison. Mais ça me paraît un cadre qui est incontournable. D'abord, l'État-nation, c'est un fait qu'on peut constater, demeure une instance très active, très influente à l'échelle de la mondialisation. Les États sont les acteurs principaux dans la mondialisation elle-même, dans ces grandes instances que sont l'ONU, l'UNESCO, le G20, le FMI, la Banque mondiale, etc. Ce sont les États-nations qui sont les principaux acteurs. Deuxièmement, l'État-nation, c'est encore le lieu le plus puissant des mécanismes d'acculturation, d'identité, d'appartenance et d'allégeance. Encore une fois, c'est une observation qui s'accorde simplement avec la réalité. Une troisième raison tient au fait que, dans la très grande majorité des cas, la gestion de la diversité ethnoculturelle relève principalement, sinon intégralement, de l'État-nation et d'institutions qui opèrent dans le cadre national. Alors, on pourrait trouver souhaitable qu'il en soit autrement, mais c'est la réalité dans laquelle nous vivons et dans laquelle, apparemment, nous allons continuer à vivre pendant un certain temps. Alors, il y a plusieurs exemples qui attestent aussi que, et c'est une autre raison, qui attestent que l'État-nation est en train de se définir une nouvelle vocation, présentement. C'est une vocation qui se définit en termes de refuge et de lieu de protection contre les tendances unificatrices de la mondialisation et surtout, je dirais, contre les effets corrosifs du néolibéralisme qui est associé à la mondialisation et qui a un petit peu, parasité la mondialisation. Ce n'était pas une union fatale que la mondialisation donne dans le néolibéralisme, mais ça s'est produit comme ça. Alors, quand on parle du néolibéralisme et de ses effets corrosifs, on parle de phénomènes bien connus, l'augmentation des inégalités, l'érosion des politiques sociales, l'affaiblissement des centrales ouvrières, le désengagement de l'État, le déficit démocratique, on connaît bien toutes ces choses-là. Qui défend le citoyen contre ces atteintes présentement? L'État-nation doit être un des défenseurs, doit être une des instances qui devrait permettre aux citoyens d'assurer ces défenses. Alors, moi, il me semble que les prévisions qui annoncent le déclin de l'État-nation, sinon son éclipse, me semblent prématurées, c'est le moins que je puisse dire, comme en témoigne également la situation des mythes nationaux. Alors, moi, je viens de publier un ouvrage collectif chez Routledge, à Londres, avec une équipe d'une quinzaine de chercheurs de plusieurs pays, Et chacun a travaillé sur une nation, sur un État-nation dans le monde. Et les questions étaient, la question était la même, quelle est la situation des mythes nationaux? Ils sont en déclin, ils se renouvellent, ils résistent, quoi? Et finalement, les mythes nationaux sont loin d'être en déclin, ça c'est sûr. Ils gardent une vigueur considérable. Parfois, ils utilisent leur force à des fins qui sont détestables. Dans d'autres cas, des fins qui sont beaucoup plus nobles, des défenses de la démocratie, des valeurs qui sont les nôtres. Donc tout cela est imprévisible. Mais les mythes nationaux sont loin de disparaître et trouvent même à s'alimenter à même la mondialisation. Alors c'est une mécanique qui est très compliquée et qui demande une réflexion et beaucoup d'études. J'ai ajouté trois remarques à ce sujet-là. D'abord, je ne pense pas qu'une pensée soit suspecte du seul fait, soit suspecte de nationalisme au sens négatif, du seul fait qu'elle s'inscrive dans le cadre de l'État-nation. La défense de l'État-nation et des valeurs qu'on peut lui associer, c'est une forme de nationalisme, finalement. Les mobilisations collectives qui ont permis à la décolonisation dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Amérique latine, en Venezuela, avec Bolivar, on pourrait multiplier les exemples, étaient des nationalismes, mais orientés vers des formes d'affranchissement des peuples, de libération, d'égalité des peuples, comme le disait Alain tout à l'heure, etc. Alors, je pense que s'occuper de l'État-nation, c'est simplement faire écho à une réalité dont la prégnance demeure considérable. Nos vies continuent d'être profondément influencées par l'action de l'État et la symbolique de l'État-nation. En deuxième lieu, je pense que ce serait faire preuve d'angélisme, de croire que les maux qui affligent l'État-nation, et ces défauts sont bien connus, ne se reproduiront pas à l'échelle mondiale. On pourrait même soutenir que dans certains cas, ils s'y retrouvent à une échelle amplifiée. Je pense à la domination outrageuse qui est exercée par plusieurs multinationales ou de grandes puissances économiques qui sont peu soucieuses d'équité, de protection de l'environnement, de protection des droits. Je pense à la corruption à grande échelle dont certaines formes ont été encouragées, rendues possibles par la mondialisation. Je pense au déficit démocratique, évidemment. Je fais allusion aussi au fait que les grands facteurs de clivage et d'inégalité et de domination qu'étaient la race, le genre, la classe sociale, etc., sont loin de disparaître avec la mondialisation. Dans plusieurs cas, ils prennent une autre forme, ils se reconstituent à une échelle encore plus considérable et plus difficile à combattre. Alors, qu'on ne se méprenne pas. Je ne suis pas en train de faire le procès de la mondialisation. J'essaie simplement de faire ressortir des aspects négatifs dont on ne parle pas souvent. Mais les aspects positifs, je ne les conteste absolument pas, bien sûr. Et puis, je pense qu'il est utile de rappeler, alors là, c'est un passage un peu plus délicat de mon exposé, mais j'y tiens absolument parce que finalement, c'est peut-être un des plus importants. Regardez bien quelle est l'idée. Il est utile de rappeler que toutes les nations ne sont pas porteuses d'un bagage historique infamant. Plusieurs d'entre elles, et peut-être la majorité d'entre elles, n'ont jamais versé dans les fascismes, les despotismes, les impérialismes, les génocides. Au contraire, elles en ont été victimes. On doit donc se garder de généraliser ou de partager trop spontanément un sentiment de faute, un sentiment de honte et de rejet qui revient plus à certaines nations qu'à d'autres. Et là, vous pouvez suivre mon regard, il s'en va vers l'Europe. L'Europe a cultivé un sentiment de honte de ce qu'elle est, pour d'excellentes raisons, à cause de ce qu'elle a fait. Mais au Canada, au Québec, on n'a pas eu de choix. On n'a pas eu de génocide, on n'a pas eu de despotisme. Les États n'ont pas été violents, n'ont pas été dégueulasses. Ils ont commis de la discrimination, ils ont été injustes envers plusieurs composantes de notre société. Mais je veux dire, il n'y a rien de comparable avec l'histoire européenne, l'histoire des violences européennes depuis le 19e siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on partagerait la honte qu'éprouvent les Européens à propos de leur histoire? Pourquoi est-ce qu'ils nous l'exporteraient et que nous, on l'absorberait et puis qu'on la plaquerait sur nos réalités et puis qu'on se mettrait à avoir honte de ce qu'on est alors qu'on n'a pas les raisons que peuvent avoir d'autres nations? Je trouve ça extrêmement important, ça, parce que en Europe, on ne peut même pas parler de nationalisme. Et puis on comprend bien pourquoi, on comprend nos réflexes. Mais quand on se réfère à des nations comme le Québec,
Je veux dire, il y a une nation qui s'est comportée comme un mouton, qui s'est marché sur les pieds pendant un siècle ou deux. Vous me direz que maintenant, ça va mieux, on met nos culottes, pour reprendre un nouveau slogan politique qui ne figurait pas dans tes lexiques, Alain. Hein? Alors, voilà ce que je voulais dire. Et puis même, j'irai plus loin. Là où le blâme à l'encontre de l'État-nation paraît bien fondé, alors, dans l'histoire récente européenne, est-ce qu'on est sûr qu'il faut accuser l'État-nation lui-même ou l'utilisation scandaleuse qu'en ont fait les classes sociales dominantes et les bourgeoisies européennes? Je pense qu'il faut introduire ici une distinction qui est importante. L'État-nation est un cadre qui se prêtait au pire comme au mieux. C'est comme la langue d'Ésope. Bon, c'est un peu comme la religion. C'est un peu comme toutes les productions de la nature humaine. Bon, alors, je pense que c'est une distinction importante qu'il faut faire. Dans l'esprit d'une meilleure compréhension des différents modes de gestion de la diversité ethnoculturelle et des changements qui les affectent, j'attire l'attention sur la sphère des paradigmes. J'appelle ça des paradigmes. Je me réfère aux perceptions premières des réalités ethnoculturelles, des perceptions qu'on peut qualifier de fondatrices, dans la mesure où dans chaque société ou dans chaque nation, elles servent de plateforme à la conception, à la construction de modèles, dans la mesure aussi où elles structurent le débat public, où elles inspirent les politiques et les programmes de l'État. Alors, je rappelle très brièvement les quatre configurations que j'ai pu identifier. D'abord, ce que j'appelle le paradigme de la diversité, c'est-à-dire que ce sont des nations qui se définissent comme un ensemble d'individus, un ensemble de citoyens, porteurs des mêmes droits, et d'une différence qu'ils construisent eux-mêmes et qui sont donc protégés par la loi ou par la charte. Le multiculturalisme canadien, du moins dans ses versions libérales de Charles Taylor, de Tilly, de Wilkie Mlika et d'autres, relève très évidemment de ce paradigme. Vous savez que le premier énoncé du multiculturalisme canadien tel qu'il a été présenté en 1971 par le premier ministre Trudeau à la Chambre des communes énonçait qu'il n'y a pas de culture majoritaire au Canada. Il n'y a pas de majorité culturelle, il n'y a que des individus. Le deuxième paradigme, c'est celui de l'homogénéité, qui est un peu le contraire du précédent, c'est-à-dire la diversité doit se manifester le moins possible dans l'espace public. Troisième, c'est ce que j'appelle le paradigme de la bi- ou multipolarité. C'est lorsque la nation est officiellement définie comme étant constituée de blocs ethnoculturels, dont l'avenir est assuré par des dispositions constitutionnelles. Alors on pense à la Belgique, à la Suisse et à quelques autres. Quatrième, c'est le paradigme de la mixité, en vertu duquel il est prévu ou il est espéré qu'au gré de métissage, au gré d'échanges intensifs dans la longue durée, la diversité de la nation, la diversité initiale, va finir par se résorber et donner naissance à une culture différente, supérieure, etc. Ça, c'était très fréquent en Amérique latine et c'est présent aussi dans l'une des exceptions. Qu'a prise la notion de melting pot aux États-Unis. Mais ce n'est pas la seule. Le concept de melting pot véhicule trois sens différents et contradictoires qui le rendent assez embêtant, mais qui explique une partie de son succès aussi, parce que tout le monde trouve à s'y nourrir, selon l'aspect auquel on se reporte. Et puis finalement, le paradigme de la dualité, selon lequel la réalité ethnoculturelle apparaît comme fondamentalement structurée par un rapport majorité-minorité. C'est dans ce paradigme, bien sûr, que s'inscrit principalement l'interculturalisme. C'est un modèle qui est conçu principalement pour les nations qui se perçoivent comme étant constituées de cette manière, d'une majorité et de minorité ethnoculturelle. Les chemins par où les nations arrivent à cette perception peuvent être extrêmement différents, avec des conséquences très variables, et ça fait partie des choses qu'il faudra étudier. Alors, j'évite de parler, moi, de concept de groupe ethnique. C'est un mot que je n'utilise jamais, parce que ça renvoie à des espèces d'enclaves figées, réifiées, dont les individus sont captifs et qui ne bougent plus, alors que ça existe très très peu dans la réalité. Ici au Québec, on pourrait penser aux Juifs hassidim à Outremont, au Canada anglais, aux États-Unis, aux Lutherites, aux Mennonites, aux Amish, mais c'est très très rare dans une société. La plupart des formations qu'on appelle ordinairement des groupes ethniques sont au contraire constituées de fluidité, d'ouverture, de porosité, et à l'intérieur desquelles, souvent, les gens sont libres d'adhérer ou non à ces références-là. Pas toujours, mais souvent. Alors, c'est pour ça que je parle de minorité ethnoculturelle, qui est un concept moins commis, plus ouvert, un petit peu plus neutre. Alors, dans l'ensemble, qu'il s'agisse de majorité ou de minorité, les identités doivent toujours, alors c'est une autre correction que j'aime bien faire de temps à autre, aujourd'hui on parle toujours des identités construites, les identités multiples, les identités sont des choix, c'est fluide, ça change tout le temps, etc. Et puis, selon le marché, l'environnement, on va jouer de cette identité plutôt que d'une autre. Moi, j'achète une bonne partie de ça, mais pas complètement. Je pense qu'il y a des éléments dans l'identité qui ne se marchandent pas. Moi, comme fils de telle famille, je ne joue pas avec ça. Comme originaire du Saguenay, pour moi, ça a des significations extrêmement particulières. Je ne joue pas avec ça non plus. Comme Québécois non plus. Par contre, comme consommateur de tel type de voiture ou pas, comme citoyen dans des occasions quotidienne, un peu sans conséquence, là, c'est sûr que moi, j'ai tout un plateau d'identité, vous pouvez me faire confiance. Hein. Donc, pour moi, il y a une hiérarchie là-dedans. Et ça veut dire pour moi que dans une identité, il y a toujours un facteur de fluidité et puis il y a un facteur d'ancrage. Et je pense que ces deux dimensions-là doivent toujours être considérées d'une façon conjointe. Au Québec, la perception d'une majorité est d'autant plus accusé que la majorité dont il s'agit, je l'ai qualifié tout à l'heure, c'est une minorité culturelle dans l'ensemble du continent, c'est une minorité politique dans l'ensemble du Québec, et elle est toujours donc porteuse d'un coefficient d'insécurité qui est vécu différemment selon les périodes. Parfois il s'enfle, parfois il se réduit, ça dépend des conjonctures. À l'époque de la Révolution tranquille, l'insécurité était quasiment rendue au degré zéro. Je dirais que depuis, au cours de la dernière décennie, ça a changé beaucoup. Donc, c'est une chose qui varie. Mais le facteur est toujours là. Alors, cette perception structurante, elle est par ailleurs ancienne. Elle a toujours été au cœur de la réflexion québécoise. Et à la lumière du débat que nous vivons maintenant, on peut dire qu'elle est particulièrement accusée. Hein. Alors, j'insiste un peu sur cette idée-là, parce que ça aussi, c'est une dimension de mon livre qui a fait l'objet de critiques. Reconnaître la majorité et la minorité, c'est lui donner une légitimité, c'est de l'encourager dans ses excès, ses abus, etc. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, si moi on me trouve suspect, j'imagine qu'on ne trouvera pas Charles Taylor suspect de ce point de vue-là, et qui est parfaitement d'accord avec moi, c'était d'ailleurs dans notre rapport, c'était très présent dans notre rapport, que la vision du Québec ethnoculturel comme étant formée d'une structure de cette façon. Cela dit, le Québec n'est pas le seul à relever du paradigme de la dualité. Au contraire, je pense que la majorité des États-nations d'Europe, présentement, sont en train de glisser vers un paradigme comme celui-là, à cause de la défaveur dans laquelle, pour des raisons qui ne nous regardent pas, qui sont bonnes ou mauvaises, à cause de la défaveur dans laquelle le multiculturalisme est tombé à l'échelle européenne, présentement. Alors, les Européens cherchent un modèle de rechange. Et par exemple, très très rapidement, le Conseil de l'Europe a consulté ses 47 pays membres durant l'année 2007-2008, pendant que nous autres, on faisait nos travaux, auxquels ils ont toujours envoyé des observateurs, et ils sont beaucoup inspirés de ce qu'on faisait. Et la question qui était posée aux 47 pays membres, quel est le modèle que nous devrions privilégier dans nos initiatives pour favoriser les rapports entre cultures? Et les 47 pays d'Europe sont arrivés à un consensus, ce qui est assez étonnant, en trois points. Rejeter tout ce qui ressemble à de la fragmentation, le multiculturalisme, rejeter toutes les formules d'assimilation, et là, entre parenthèses, il y avait le mot républicaine, mais la référence à la France était évidente, et chercher une voie mitoyenne. On retrouve là la piste de l'équilibre. Hein. Et comment il nommait cette voie citoyenne? L'interculturalisme. C'est dans un rapport du Conseil de l'Europe de 2008. Alors vous voyez qu'il y a des horizons qui s'ouvrent à cette piste, cette façon d'approcher les réalités ethnoculturelles dans certaines conditions. Là où on imagine qu'il y a une majorité et qu'il y a des minorités. Et là, en Europe, présentement, j'ai dit qu'il y avait plusieurs chemins qui menaient à la perception d'une structure comme celle-là. Et en Europe, le chemin qui y mène présentement, c'est très évidemment l'inquiétude que représente ce qui est perçu comme une menace musulmane contre laquelle les États doivent absolument se défendre. Et ça crée donc cette vision dualiste de la réalité ethnoculturelle. Moi, donc, je crois que l'interculturalisme, c'est donc un modèle qui a un avenir en ce sens-là. Au Japon, je suis extrêmement populaire au Japon. Ça fait deux tournées de conférences qu'ils me font faire pour leur parler d'interculturalisme. Pourquoi ? Parce que le Japon s'aperçoit qu'ils ont une fécondité qui est extrêmement faible. Les démographes prévoient que d'ici 30 ans, ils peuvent perdre jusqu'au tiers de leur population. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, politiquement, économiquement ? C'est un désastre. Au Japon, il y a moins de 2% d'immigrants, de non-natifs. Alors, la solution, c'est d'ouvrir largement les portes à l'immigration. Mais il se trouve que le Japon, c'est un peu comme le Canada français avant 1950. C'est une société qui a toujours été profondément travaillée par l'idée de son homogénéité, qui était le symbole de sa pureté, où se greffaient toutes leurs qualités éminentes collectivement et qui leur avaient permis de devenir une grande puissance en Asie, etc. Donc, c'est pas facile pour eux autres de penser à l'immigration. Ils ont regardé la carte du globe comme il faut. Ils ont vu qu'au Québec, ça ressemblait à leur affaire. Ils ont dit comment, eux, ils ont fait hein, pour se transformer en 50 ans d'une nation qui était pénétrée de son homogénéité pour devenir une nation décomplexée qui intégrait la diversité d'une manière extrêmement cohérente, finalement. Là, je parle, encore une fois, jusqu'au début de la décennie. Alors voilà, les Japonais sont à l'écoute du Québec. Mon livre est en train d'être traduit en japonais. Je vais faire une troisième tournée de conférences bientôt. Et l'interculturalisme. Aussitôt qu'on voit les choses de cette façon, tout de suite émerge l'idée qu'il en est une majorité, et dans le cas du Japon, comme dans plusieurs places, qui est menacée par une minorité qui n'est pas encore formée, mais qui risque de se former s'ils ouvrent les portes à l'immigration. Je vais signaler ici un paradoxe qui est intéressant et qui est important. Je me fais souvent dire qu'au fond, la finalité de l'interculturalisme, avec son paradigme de majorité-minorité, au fond, c'est de réduire cette dualité, pour en venir à fondre ça dans une seule vision d'un ensemble de citoyens, etc. Non, ce n'est pas ça la bonne réponse. Le paradoxe est le suivant. Le pluralisme invite à atténuer le rapport entre la majorité et la minorité, hein, à l'atténuer, à l'adoucir, à l'harmoniser. Le pluralisme va dans ce sens-là, mais il va aussi dans le sens contraire. S'il existe des majorités et des minorités, c'est le fruit de choix d'individus qui ont voulu garder un lien avec une culture d'origine. Et ça, c'est un droit qu'il faut reconnaître à tout individu. Mais c'est de là qu'en résulte la formation de minorités et de majorités. Alors le pluralisme va dans ce sens-là aussi. Alors c'est un paradoxe qui est intéressant et qu'il faut garder à l'esprit quand on parle du paradigme de la dualité et du rapport majorité-minorité. Alors pour moi, ça repose encore une fois sur la décision, le choix de citoyens de maintenir un lien avec leur culture d'origine. Et ça existe aussi dans la majorité. Les anciens Canadiens français, il y en a maintenant, on le sait, qui continuent à se percevoir comme Canadiens français, qui n'adhèrent pas du tout à l'idée de la nation québécoise ou de l'ensemble des habitants du Québec comme formant la nation québécoise, qui ne veulent pas se fondre là-dedans, qui se perçoivent d'abord comme Canadiens français et ensuite comme Québécois. Hein, c'est une démarche comme ça qui est fréquente et qu'il faut respecter. Par contre, il y en a d'autres qui décident de s'immerger complètement dans l'idée de la nation québécoise et de la culture québécoise qui est en train de se former et de sacrifier la référence à leurs origines. Ça, c'est le choix des individus qu'il faut respecter, toujours à la lumière des impératifs sociologiques et politiques d'une nation et d'une société. J'ai tenu à aborder dans mon ouvrage, tu m'arrêtes, tu me dis un peu quand il me restera pas beaucoup de temps, hein, ça me permettra d'étirer un peu. J'ai tenu à aborder dans mon ouvrage la question de la neutralité culturelle de l'État, ou de la non-neutralité culturelle de l'État. C'est un sujet de discussion, de réflexion, de controverse important chez les politologues, dans la philosophie politique, etc. Et moi, j'ai voulu apporter à ça un éclairage sociologique. Alors, un mot d'abord sur les concepts. Je parle d'interventionnisme pour désigner la position qui est favorable aux initiatives de l'État en matière de promotion de traditions, de valeurs, de normes qui sont inspirées de la majorité culturelle. Et puis, je vais parler d'abstentionnisme pour caractériser la position contraire, c'est-à-dire ceux qui s'en tiennent à la règle de la neutralité culturelle. Ce que je vais mettre en relief, c'est deux choses. Je pense qu'il y a ici une forme de duplicité qu'il faut dénoncer. Et deuxièmement, il y a, me semble-t-il, là, un important angle mort de la pensée libérale. D'abord, la duplicité. La duplicité, c'est que cette règle, plusieurs penseurs libéraux, du libéralisme classique, nous la rappellent tout le temps. Et par exemple, le Québec a été souvent l'objet de procès à cause de ça. Il faut respecter la neutralité culturelle de l'État. Alors moi, ce que je dis, c'est que quand on regarde les États-nations qui se présentent comme étant les plus civiques, les plus pluralistes, les plus multiculturalistes, mais ils sont en pleine non-neutralité, ils sont en plein interventionnisme par-dessus la tête. Quand on prend l'exemple du Canada, des États-Unis, la France, l'Angleterre, la Suisse, etc., plein d'exemples d'incohérences qui contredisent la neutralité culturelle. Je vais prendre juste un exemple, parce que là, on manque de temps. C'est au sujet du Canada, le rituel qui s'appelle le Prayer Breakfast. Je prends la liberté de vous demander combien il y en a qui sont au courant de ça. Je n'en ai pas, hein, parce que moi, je ne le savais pas il y a 6 mois. Bon, il n'y a pas beaucoup de mains qui se précipitent. Hein. Il y a quelques esprits éclairés, avant-gardistes, qui sont au courant, des gens cultivés. Ça fait plaisir de savoir qu'il y en a quelques-uns dans la salle, quand même. Mais moi, je ne le savais pas. Je ne fais pas partie de votre élite. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un rituel annuel qui réunit, alors écoutez bien, les présidents du Sénat, le président de la Chambre des communes, les juges de la Cour suprême, les membres du cabinet du Premier ministre, et pourquoi faire ? Alors, je cite, à partir du carton d'invitation de la cérémonie de l'année dernière, 2012, c'est pas 1912, là, 2012. Alors, pour invoquer, je ne mettrai pas toujours des guillemets, là, le Dieu Tout-Puissant, demander au Très-Haut force et sagesse de manifester notre foi, de renouveler notre dévouement et celui de notre nation à Dieu et à ses œuvres, le tout dans l'esprit du Christ. On n'est pas loin de l'époque où le clergé canadien-français consacrait la nation au Sacré-Cœur. On est dedans, hein? On n'est pas vraiment sorti. Enfin, je veux dire, de l'autre côté d'Ottawa. Alors, et puis encore une fois, là, je ne vais pas prendre de temps, mais si vous regardez dans mon livre, vous allez voir plein d'exemples, plein de contradictions. En France, par exemple, il y a 3 grandes religions. 2 d'entre elles bénéficient des avantages de la loi de 1905, sauf l'islam, qui est la deuxième religion en importance. Pourquoi pas l'islam ? C'est inexplicable. Hein ? Là, c'est non seulement de la non-neutralité culturelle, mais c'est de l'abus qui est contraire au pluralisme et contraire au droit. Alors, c'est à ce sujet-là que je parle d'une duplicité, qu'on ne vienne plus nous reprocher au Québec de donner dans l'interventionnisme culturel. Hein, il faut dire, et vous, comment vous faites avec ça? Et ces pays-là vont beaucoup plus loin que ce que nous faisons au Québec. Alors, à ce sujet-là, je parle aussi d'un angle mort de la pensée libérale. Et ça, c'est très important. À l'égard de l'interventionnisme en faveur de la culture majoritaire, comme je viens de dire, de nombreux observateurs, et là-dedans, il y a beaucoup de penseurs libéraux, là, hein, c'est pas juste des xénophobes, là, des grands penseurs libéraux, qui affichent une tolérance, ou bien ferment les yeux à ça. Je dis théoriquement, c'est pas intégré dans les théories. C'est à ce sens-là que je dis qu'ils ferment les yeux, ou qu'il y a un angle mort. Comme s'il s'agissait d'accrocs mineurs, ou d'écarts inévitables dans la gouvernance d'un État-nation, d'une sorte de bruit de fond auquel il faut s'habituer, puis c'est pas grave. Alors, il y en a certains parmi ces libéraux qu'on appelle les communautariens, qui affirment que non seulement ces écarts sont inévitables, mais qu'ils sont utiles, du fait qu'ils peuvent contribuer à maintenir des traditions, à donner une sécurité à la majorité, à perpétuer une culture qui peut être porteuse de valeurs bénéfiques à une société, à maintenir des traditions qui ne sont pas dégueulasses du tout, au contraire, qui sont porteurs d'idéaux, etc. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est prolonger cette argumentation en lui donnant une justification d'ordre sociologique. Et là, je vais aller vite parce que j'ai peur qu'Alain m'arrête là, dans mon vol un peu plus loin, mais mon idée, c'est que je me réfère aux grandes leçons de la tradition sociologique à partir de Émile Durkheim, Weber, etc., ou à la grande tradition de l'anthropologie aussi, selon laquelle, pour qu'une société puisse fonctionner, pour qu'elle puisse se constituer, se perpétuer, progresser, se donner des projets, les poursuivre, etc., il faut qu'elle ait un fondement symbolique. Il faut qu'il y ait un fondement symbolique qui soit partagé par tout le monde. Bon, un minimal, bien sûr, hein, qui varie selon les sociétés, qui change assez souvent, qui est partagé d'ailleurs d'une manière inégale par l'ensemble des citoyens. Il y en a même qui n'y adhèrent pas. Mais il y a quand même un fondement symbolique qui rallie la grande majorité des citoyens au-delà de leur langue, de leur religion, leurs origines, etc. Une société ne peut pas fonctionner sans ça. Et ce que je dis, c'est que, alors encore une fois, dans la accord avec ces traditions des sciences sociales, c'est que les fondements symboliques se forment très lentement. Ça se forme très lentement dans un processus d'élaboration, de décantation, d'accumulation dans le temps. Donc, le fondement symbolique est associé bien plus aux majorités, là qu'on peut appeler fondatrices. Alors, si on distingue dans une société, en tant qu'elle est un projet et en tant qu'elle est un héritage, il est évident que l'héritage relève principalement de la majorité fondatrice, mais qu'en tant que projet, ça relève évidemment de l'ensemble des citoyens. Cette distinction-là est très importante. Mais pour moi, c'est la justification sociologique de l'interventionnisme culturel. Alors, pas à n'importe quel prix ni à n'importe quelle condition. Dans la mesure où il aide à réparer, à refaire, à faire évoluer, à adapter et à enrichir ce fondement symbolique, qui est une instance sociétale. Ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement de la culture majoritaire. Ça relève de l'ensemble d'une société. Et les sociétés qui vont mal, c'est des sociétés où la majorité a confisqué le fondement symbolique, sans s'occuper des aspirations des minorités. Et les sociétés qui vont mal aussi, c'est celles qui ont laissé s'éparpiller ça un peu partout, sans le souci de constituer un nœud qui établit des éléments de convergence. Alors, voilà l'idée donc, que je voulais mettre en place à ce sujet-là. Et moi, je trouve que mon approche comporte au moins deux avantages. D'abord, elle éclaire l'angle mort dont je parle. L'interventionnisme culturel n'est plus un bruit de fond, ce n'est pas quelque chose auquel il faut se résigner. Non, il y a une justification sociologique très très nette, il y a quelque chose de positif là-dedans. Et puis, l'autre avantage, c'est que en mettant au grand jour les pratiques de non-neutralité, ma proposition permet de leur apposer des limites en soumettant une règle, en les soumettant à une règle. Et, par exemple, ne devrait être jugé admissible que les initiatives de l'État qui passent le test du pluralisme et du droit ou qui sont susceptibles de le faire éventuellement en cas de remise en question. Meilleur exemple, la loi 101 au Québec. Quoi qu'on en dise, elle restreignait des droits. Mais néanmoins, la légitimité de cette loi a été reconnue par la Cour suprême du Canada, qui n'est pas reconnue comme étant complaisante envers les initiatives collectives du Québec. La légitimité de cette loi a été reconnue. Et pourtant, elle brimait des droits. Alors, elle les brimait pas seulement en faveur de la majorité, bien que ça faisait bien l'affaire de la majorité que d'assurer l'avenir du français, mais ça faisait l'affaire des minorités aussi, parce qu'il y avait une langue civique qui était parlée par 80% de la population, qui était la langue de toutes les institutions, qui était la langue de la promotion sociale et de l'intégration. Et quelqu'un qui ne maîtrisait pas cette langue-là était un citoyen qui se marginalisait et qui risquait de rater une promotion sociale légitime pour tous les citoyens. Donc, en ce sens-là, il y avait un trade-off dans la loi 101. On ne le fait pas assez ressortir assez souvent. Et puis ensuite, il y avait un enjeu extraordinaire. C'était l'avenir de la francophonie elle-même qui était en jeu. Alors, vous voyez, pour moi, c'est un très bel exemple d'un interventionnisme culturel qui fait l'affaire de la majorité, mais pas seulement, qui brime des droits. Les immigrants ne pouvaient plus choisir l'école, les anglophones ne pouvaient plus pratiquer l'affichage au même degré que le français, etc. Et néanmoins, ça a passé le test des tribunaux. Alors, je vais sauter ça parce que vous le savez tous. Alors, je reviens sur l'idée que l'interculturalisme se caractérise par une priorité octroyée à l'intégration et aux interactions. Alors, je parle d'intégration, non pas au sens où maintenant on comprend ce mot en Europe, c'est-à-dire qu'en Europe, pour plusieurs, c'est synonyme d'assimilation. Je ne sais pas comment ça en est venu là, mais moi, c'est au sens des sciences sociales nord-américaines que je dis intégration. C'est-à-dire qu'il y a un principe de mutualité, il y a un principe d'interdépendance, il y a un principe de justice sociale que chaque citoyen doit être inséré dans une société pour y avoir droit au chapitre, droit au même service, accès au même, etc. Je sais qu'il n'y a pas de malentendu là-dessus. Ces impératifs sociologiques qui soutiennent l'idée de l'intégration se justifient de diverses façons. C'est d'assurer l'exclusion, c'est d'assurer l'inclusion économique et sociale, c'est la lutte contre la méconnaissance qu'engendrent les stéréotypes, etc., essaie de consolider la situation du Québec comme petite nation minoritaire. L'intégration, C'est un impératif pour le Québec. C'est pas un choix, c'est une nécessité. Une petite nation qui est arrangée comme la nôtre, c'est une petite nation qui est naturellement méfiante de tout ce qui ressemble à de la fragmentation, ce qui ressemble à de la division, du clivage, de la ghettoisation, etc. Alors, je dis que l'interculturalisme est une recherche d'équilibre, et voilà ce que je veux dire par là. Par exemple, l'interculturalisme est un modèle qui cherche à promouvoir à la fois la pluralité identitaire, mais aussi les impératifs de l'intégration. Le respect de la diversité, mais aussi le développement d'une culture commune. La protection, la reconnaissance des minorités ethnoculturelles, mais aussi l'avenir de la majorité et la préservation de ce que j'ai appelé le fondement symbolique du lien social. Ce qui inclut, en passant, évidemment, la construction de l'enseignement de l'histoire nationale, qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce plan-là au Québec. Il faut se méfier aussi de certaines initiatives qui viennent d'être annoncées. Encore là, il y a un esprit d'équilibre qui doit présider à tout cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est faux d'affirmer que le pluralisme exige de renoncer à ce que, entre parenthèses, nous sommes. C'est une expression qu'on lit et qu'on entend souvent. Autre exemple d'équilibre, la pratique des accommodements, mais aussi la protection des valeurs fondamentales, le rejet d'une hiérarchie formelle, a priori, des droits inscrits dans une charte, mais le recours légitime à des hiérarchies ponctuelles, contextuelles, ce que des juristes au Québec commencent à appeler des hiérarchies passagères. Et là, il y a quelque chose de très subtil, de très nuancé, mais qui va directement dans le sens de la recherche de l'interculturalisme, et puis finalement le respect des droits individuels, mais aussi des droits collectifs. Alors vous me direz, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait ça? Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, c'est possible. Le Québec, elle l'a fait au cours des dernières décennies, exactement, et très bien. Alors, voyons un peu plus ce qui se fait au Québec. C'est ce que nous faisons déjà. Ben, c'est ce que nous faisions déjà. C'est parfait. Moi, j'ai été élevé par des frères qui étaient très soucieux de la grammaire, hein, et de la ponctuation. Alors, toujours dans l'esprit d'une recherche des équilibres, le fait de mettre au cœur du modèle le rapport majorité-minorité constitue un important avantage parce que le rapport de pouvoir qui favorise toujours la majorité aux dépens des minorités se trouve de cette façon placé au premier rang. Il est dans la vitrine, on le voit tout de suite. Et donc ça devient un objet prioritaire de vigilance. Et là, j'ai ouvert une petite parenthèse pour référer au livre de L.K. Winter, qui vient d'être publié, qui a fait une étude de contenu d'un paquet d'éditoriaux de textes dans les principaux journaux canadiens, pour démontrer que le rapport de majorité-minorité et le rapport de domination, de relation de pouvoir dont il est porteur, est occulté par le discours officiel du multiculturalisme. Alors, je ne suis pas en train de dire, là, on va se comprendre, je suis pas en train de dire que le multiculturalisme était une mauvaise affaire pour le Canada anglais, je pense au contraire. Mais c'est loin d'être le système modèle là, que plusieurs Canadiens anglais veulent donner un « moral world model hein. ». Ça, à mon avis, c'est allé trop loin. Mais autrement, c'est un modèle qui a bien fait l'affaire au Canada anglais. La question nationale, alors, l'interculturalisme québécois et la question nationale. Moi, je pense que l'interculturalisme doit être conçu pour l'ensemble des Québécois, au-delà ou en deçà de leurs allégeances politiques et autres. Je pense qu'il doit être conçu d'une manière qui accueille toutes les formes de diversité culturelle, mais aussi il est manifeste que dans un Québec souverain, l'État québécois disposerait de plus de pouvoir pour appliquer plus intégralement ce modèle dont plusieurs composantes restent soumises à l'arbitrage juridique, politique, etc., du gouvernement canadien. Alors là, il y a évidemment un facteur de limite. Et puis, l'accès du Québec à la souveraineté mettrait fin aussi au double régime actuel en matière de langue officielle, de citoyenneté, d'appartenance, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours vécu de façon positive par les citoyens qui sont concernés. Et puis aussi, la jurisprudence des tribunaux québécois pourrait davantage refléter la sensibilité, les traditions et les valeurs prioritaires des Québécois. Par exemple, il y a des juristes très sérieux, les juristes sont toujours des gens très sérieux, hein, beaucoup plus que les sociologues, les juristes qui ont comparé les jurisprudences canadiennes et québécoises. dans des causes où le droit de la religion était en compétition avec d'autres droits, et en particulier l'égalité homme-femme. Et ce que ces études ont démontré très clairement, c'est qu'il y avait une différence importante entre la jurisprudence canadienne et québécoise. Du côté canadien, on consacrait une préséance ad hoc, pas formelle, pas a priori, c'est pas dans la charte, il n'y a pas de hiérarchie formelle. Mais la jurisprudence, en pratique, consacrait une préséance ad hoc à la liberté religieuse. Tandis qu'au Québec, c'était le contraire. On se montrait plus sensible à la séparation entre l'État et à la religion, et à l'égalité homme-femme. Et ça, c'est des études là, qui sont vraiment intéressantes. C'est très, très convaincant. Alors, à la lumière de ces données, il y a des analystes au Québec qui ont suggéré que, en l'absence de souveraineté, finalement, ce n'était pas très utile de se pencher sur un modèle de gestion de la diversité ethnoculturelle au Québec. Hein, parce que le Québec n'avait pas les pouvoirs pour appliquer le modèle qu'il pourrait imaginer. Moi, c'est une position qui me paraît pas fondée. Je trouve que le Québec dispose tout de même présentement de pouvoirs importants qui lui sont conférés par la Constitution canadienne et qui lui permettent de légiférer alors en matière de droit, en matière d'éducation, d'immigration, en matière de langue, en matière d'intégration économique et sociale, etc. Le Québec peut légiférer là-dedans. Et donc ces pouvoirs dessinent une ère de réflexion et d'action limitée, bien sûr, mais qui demeure encore une fois importante. Et puis, je signale que, en accord avec les finalités de l'interculturalisme, cette ère de réflexion inclut également le développement d'une culture commune, l'enseignement de l'histoire nationale, la promotion de valeurs jugées fondamentales, des valeurs qui ont été forgées dans l'expérience singulière du passé québécois et qui affichent une portée civique et universelle, bien sûr. Je termine avec une dimension sur laquelle je tiens à attirer l'attention. C'est les limites nationaux auxquelles j'ai fait allusion brièvement tout à l'heure. C'est un thème que j'ai seulement effleuré dans mon livre, mais dont j'ai fait ma priorité de recherche pour les années qui viennent, parce que ça me paraît vraiment, vraiment quelque chose de fondamental. Après plusieurs années de réflexion sur la diversité ethnoculturelle, j'ai eu, comme tous les autres chercheurs dans ce domaine-là, à réfléchir sur des formules de coexistence, des formules d'intégration qui conjuguent les différences sans les briser, qui favorisent la reconnaissance, les accommodements, sans compromettre les valeurs, les normes fondamentales, que toute société peut choisir démocratiquement de promulguer, en accord avec les exigences du pluralisme et du droit. Par exemple, les immigrants qui vont au Canada anglais, c'est multiculturalisme, mais il y a des règles. Le libéralisme, la liberté de parole. C'est des règles fondamentales qu'une société a le droit d'instituer et d'imposer aux nouveaux venus. Du moment que ces règles vont dans le sens, hein, encore une fois, des idéaux que nous voulons poursuivre comme société. En l'occurrence, le droit international codifie tout ça. Mais comme tous les autres chercheurs aussi, j'ai été à même de constater... Alors là, vous allez penser que je fais allusion au forum là, de la commission qui nous ont amenés dans toutes les régions du Québec, y compris la région de Montréal, et vous avez parfaitement raison. Constater la part importante, sinon déterminante, de l'émotivité et du non-rationnel qui imprègne les débats sur l'interculturel. À cause des enjeux qu'ils mettent en cause. On parle d'identité, on parle d'appartenance, de croyance. On parle d'allégeance profonde, de solidarité familiale, de filiation, de fidélité diverse. Ça, c'est des choses qui sont au cœur de l'individu, de l'image qu'il se fait lui-même, des devoirs qu'il croit devoir respecter, qui vont au-delà de toute autre considération. Dès qu'un individu ou un groupe a l'impression qu'on touche à ça, ben, il réagit vigoureusement. C'est comme Miron. C'est Miron qui disait « Quand on touche à ma langue, je mords ». Hein, ça exprime très bien ce genre d'idée. Alors, c'est dans ce substrat symbolique extrêmement puissant, je parle des mythes, que s'enracinent les craintes, les résistances, les rejets de l'autre, mais aussi les convictions profondes, les valeurs fondamentales, les visions du monde, les rêves collectifs, etc. Encore une fois, il y a deux faces. Alors, moi, j'ai dit que ce substrat symbolique, c'est celui du mythe. Non pas au sens, attention, non pas au sens de l'affabulation, ou de la tromperie, ou de l'aliénation, hein, qui est le sens courant qu'on associe au mythe, et il est vrai que le mythe souvent se réduit à cela, malheureusement. mais au sens plus général, plus sociologique, de représentation collective, porteuse de valeurs et de croyances, quelles qu'elles soient, bénéfiques ou maléfiques, mais qui puisent leur autorité dans une forme de sacralisation. Voilà ce que c'est qu'un mythe. Une représentation collective porteuse d'une valeur, d'une croyance, sacralisée. Et sacralisée, pas forcément d'une manière religieuse, il y a une forme de sacralité qui se constitue en dehors de la religion. Et quand une représentation collective s'est sacralisée, elle devient intouchable. Ou en tout cas, ça coûte cher à la toucher parce qu'il y a l'autre face du mythe qui s'appelle le tabou. Alors finalement, ça fait du mythe une représentation collective assez singulière. C'est une représentation qui n'est pas vraiment choisie. Elle s'impose aux consciences. Quelle jeune fille voudrait se définir aujourd'hui publiquement comme étant opposée à l'égalité homme-femme? Connaissez-vous un noir qui pourrait diffuser le message que les races sont inégales et que la race noire en particulier est inférieure aux autres? Bien sûr que non. Ce n'est pas un objet de réflexion. C'est un objet d'adhésion. Hein, c'est devenu, elle est mythifiée. C'est une représentation qui s'est sacralisée. C'est dans ce sens-là. C'est donc une représentation, une fois qu'elle est mise en place, qui résiste aux remises en question. Elle résiste aux réfutations, même les plus solidement fondées rationnellement. J'ai à l'esprit des interventions de Charles Taylor dans certains forums où il essayait de démontrer, avec la méthode du raisonnement aristotélicien, que le raisonnement du monsieur ou de la dame qui venait d'intervenir pour dire quelque chose n'avait pas de bon sens, et qu'il y avait des fautes dans le raisonnement-là, hein, que c'était contraire à la raison. Je pensais complètement, ça n'avait aucune efficacité, parce qu'il se heurtait à des expressions mythiques, hein, qui résistent aux données, même les données empiriques. Je parlais avec une voisine hier chez nous qui disait qu'on était envahi par les musulmans. Je dis, combien vous pensez qu'il y en a? Elle m'a dit, il y a juste de ça. Elle dit, vous regardez pas la télévision? Mais oui. Mais combien vous pensez qu'il y en a juste de ça? Ça veut dire quoi? Elle dit, moi, je suis pas un professeur. Moi, je vais pas vous le dire. Moi, mais pensez-vous que c'est la moitié, au moins? Mais si je vous disais que c'est 12%, voyons donc. Et finalement, c'est un mythe. Hein, c'est une représentation mythifiée, sacralisée. C'est ça. C'est pas méprisable, mais c'est un phénomène sociologique, un mécanisme sociologique qui est extraordinairement puissant. Alors, l'étude scientifique des mythes a déjà été florissante en anthropologie, en l'occurrence chez les sociétés primitives, et puis au cours des dernières décennies, le thème a pratiquement déserté les sciences sociales. Il n'y a plus personne qui travaille sur les mythes. Alors, je ne ferai pas une revue là, en Europe, au Canada, aux États-Unis, etc., mais le mythe n'est plus étudié. Et à mon avis, c'est l'effet persistant de l'idéologie des Lumières, c'est-à-dire un autre mythe que l'Occident a inventé. L'Occident en est venu à se convaincre qu'au terme d'une large évolution, marquée par le progrès constant, il a chassé la pensée mythique pour s'en remettre uniquement à la raison dans le gouvernement de ses affaires. Alors, l'histoire de l'Europe, au cours de la première moitié du XXe siècle, j'ai pas besoin de vous le dire, pose un démenti extraordinaire à cette représentation-là. La protestation de la philosophie du romantisme allemand durant la première moitié du XIXe siècle, la même chose, c'était une protestation contre cela, et on sait bien aujourd'hui que les Allemands savaient de quoi ils parlaient, quand ils restituaient la puissance du mythe. Alors, moi je pense qu'il faudrait travailler maintenant, réintroduire dans l'agenda des sciences sociales l'étude des mythes, parce que je suis profondément convaincu que c'est ce qui gouverne les sociétés. En définitive, on va au bout du social, au bout de la culture, on trouve du mythique, et ça se raccroche à des archétypes, etc. Mais c'est fabriqué socialement. C'est fabriqué socialement. Le mythe se construit socialement à partir d'acteurs sociaux qui s'en servent pour faire avancer leur agenda, mais qui accréditent les mythes au sein des populations en travaillant sur l'imaginaire et les fondements de l'imaginaire, c'est-à-dire les archétypes. Alors, donc, pour moi, il y aurait beaucoup de travail à faire sur les mythes. Je termine, Alain, en donnant suite à l'invitation que tu avais faite pour cette série des dialogues, pour te montrer que j'ai fait mon travail, que je t'ai pris au sérieux, des voies et qu'on pourrait ouvrir pour le dialogue, et en particulier le dialogue entre le Québec et le Canada anglais, si j'ai bien interprété une partie de ton invitation. Premièrement, les différences entre l'interculturalisme et le multiculturalisme. Ce n'est pas juste pour le plaisir de savoir que l'interculturalisme, le Québécois, puis l'autre est Canadien, puis il ne faut pas mêler ça, bien que ça a son importance aussi, non, hein? Bon, pas mal entendu. Mais partir de la différence que... Pour le multiculturalisme, il n'y a pas de majorité culturelle, il n'y a pas de rapport majorité-minorité. Alors que dans l'interculturalisme, c'est ça qui est d'abord mis de l'avant. Alors, ça a des conséquences importantes sur l'importance inégale qu'on attache d'un côté ou de l'autre à l'intégration, aux interactions, au souci de maintenir ou de développer une culture commune, et sa fondement symbolique dont je parlais tout à l'heure, la définition de la liberté religieuse par les tribunaux, dans la jurisprudence, etc. Alors, ayant dit cela, il faut garder à l'esprit que le multiculturalisme canadien a beaucoup évolué depuis 1971. Il a subi des métamorphoses constantes et très importantes, contrairement à ce que l'on croit. L'idée, par exemple, que le multiculturalisme, c'est de créer des groupes ethniques puis de les protéger à tout prix, ça, c'était vrai en 1971 et durant les années 1970, mais ça, c'est beaucoup compliqué et enrichi, je dirais, d'un point de vue canadien, en devenant plus sensible aux formes de discrimination, d'inégalité sociale, d'exclusion, etc. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment le multiculturalisme, dans sa dernière mutation, a changé depuis, je dirais même 5 ans, 6 ans, 7 ans. En démontrant des signes, alors là c'est vraiment curieux, qui le rapprochent de l'interculturalisme. C'est-à-dire le souci d'un fondement culturel commun, le souci des interactions, etc. C'est dans le langage maintenant du multiculturalisme. Alors, quand on dit ça aux Canadiens anglais, on trouve un public qui est un peu réfractaire. Mais quand même, c'est assez étonnant de voir ça. Donc, là, il y a un terrain de comparaison et de dialogue, pour reprendre le bout d'Alain, là, qui est extrêmement riche. Une autre voie, c'est la laïcité. Alors, au Québec, on en connaît un bout, nous autres, hein, sur les discussions, puis les controverses sur la laïcité, puis les divisions. Au Canada anglais, ils n'ont jamais eu ce débat-là. Et d'après Kemlicka, c'est au prochain tournant du multiculturalisme canadien. Ils pensent que là, ça commence à bouger pas mal, que l'espèce d'unanimité qui semblait régner pour établir cette préséance ad hoc de la religion est en train de montrer des fissures importantes et qu'il y a, enfin, prévoit-il, bientôt, il va y avoir l'ouverture d'un débat au Canada anglais sur la laïcité comme celui que nous avons le plaisir d'avoir au Québec. Et ça va être très heureux de partager ce plaisir-là avec nos voisins. Même de l'exporter, si ça se trouve. Il y a une troisième voie qui concerne les paradigmes. Alors, j'ai indiqué qu'on observe dans certains pays une pluralité de paradigmes en compétition. Je crois que c'est le cas des États-Unis, qui se sont toujours définis par référence au paradigme de la diversité, mais avec une grosse tentation vers l'assimilation par le biais du melting pot. Et puis aussi, l'émergence de la dualité. L'idée qu'il y a un clash entre les cultures, que les latinos sont non assimilables et non intégrables, que les noirs vont toujours rester dans leur ghetto, il n'y a rien à faire avec eux. C'est la pensée Hutchinsonienne, si vous voulez, qui est très forte, qui est très très forte aux États-Unis. Il y a un courant, une opposition très forte contre le multiculturalisme et ce qu'on appellera ici le pluralisme. Donc ça, c'est vraiment un laboratoire à surveiller. Et puis aussi, là où les États-nations semblent bouger vers la dualité, et peut-être l'interculturalisme. Alors là, il y a des choses très importantes qu'il faut surveiller. Par exemple, par quel chemin arrive-t-on à cette dualité, à la perception de cette structure duelle? Et puis, quelles en sont les conséquences? Comment se définit la majorité? Ça peut se définir de toutes sortes de manières, et ça entraîne des conséquences extrêmement différentes pour l'ensemble de la société, et en particulier pour les minorités. Alors, présentement, par exemple, en France, est en train d'émerger une conscience de la majorité qui est complètement différente de celle qui a toujours prévalu ici. Les raisons qui y sont conduites sont très différentes. Et la façon dont c'est géré aussi et les conséquences que ça entraîne également. Donc là aussi, un terrain d'échange et de réflexion mutuelle. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Il n'y a pas beaucoup qui ont eu l'air de se brancher. Peut-être que ça ne marchait pas.
Merci beaucoup, Gérard. Thank you.